One, two, ten, shake. It's okay. That's it, man.
Bourgeoises et bourgeois, gens de la goule. Et d'ailleurs, les agglomérés accompagnés du loup et du renard vous saluent. Vous écoutez Proboscopie, l'émission poétique diffamante de la bande FM. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un trio dédié le septentrionaux de l'agglo de Montpellier. Comment se gouvernent-ils? Sont-ils limités? Quels liens ont-ils entre eux? À découvrir dans la séquence appelée Agglographie. C'est quoi donc, me direz-vous, que cette usine à gaz? Vous le savez maintenant, nous vous proposons tous les 15 jours de dresser un portrait géographique, mais politique, donc géopolitique, de l'agglomération de Montpellier. Nous allons donc diverger, sans se fâcher, à propos des rivalités de pouvoir ou d'influence qui existent au sein d'un territoire, en l'occurrence notre agglomération, celle de Montpellier, présidée par l'illimité Jean-Pierre Moore. Quels sont les enjeux entre une ville-centre qui tend à se mégalopoliser et des communes plus ou moins périphériques qui parfois s'endorment sur leur laurier d'antan? Après avoir écouté la reine-mère de Montpellier, Hélène Mandrou, les maires des frontières orientales et littorales, nous partons en campagne vers les quartiers huppés, proches de la capitale. Et allons prêter grande attention aux édiles des banlieues tranquilles et septentrionales de l'agglo de Montpellier. Madame le maire, messieurs les maires, la parole va être à vous. Bonjour à René Revol, le maire mélenchonien de Grabelle, mais l'ami d'un président UMPiste de la Goule de Laval. Salut René.
Bonjour.
Bonjour à Daniel Santonja, la mère indéboulonnée de Juvignac, qui a peut-être choisi son dauphin malgré les liens qui l'unissent avec sa voisine grabellienne. Daniel Santonja, bien le bonjour.
Bonjour.
Bonjour à Jean-François Audrin, le maire de Saint-Georges-d'Orc, qui a succédé à celui qu'on appelait Oui Oui, et dont la commune produit le vin préféré des Américains depuis Jefferson. Si vous voulez bien nous présenter en deux mots votre commune, est-ce qu'elle a encore une identité? Alors René Revol, ça a une identité, Grabelle?
Ah, j'en suis absolument convaincu, puisqu'on est une commune dans laquelle 80% du territoire est un espace naturel et agricole. Et les gens qui viennent y habiter, parce qu'elle se développe comme les autres communes en termes d'habitat, ils viennent à cause de cette image de marque, c'est-à-dire de ville à la campagne. Et voilà, donc je ressens très fortement cette identité.
Donc c'est des rurbains, quoi.
C'est des rurbains, bien sûr, mais qui vivent au milieu de la nature. Donc il y a toute une problématique à mettre en place et les rapports avec l'agglomération fait que nous, on joue plutôt la carte du fait qu'on a un atout à jouer dans l'agglomération, c'est d'être un peu le poumon vert, l'endroit où on peut venir, l'endroit où on trouve un certain équilibre.
C'est le cas aussi de Juvignac un peu, parce que si mes chiffres sont bons, dans les années 50, Juvignac, c'était à peine une centaine d'habitants, maintenant c'est près de 10 000 habitants.
Ah, ils nous ont doublé.
Et donc avec une commune aussi très espace naturel, non? Ah oui, bien sûr.
Oui, bah, j'ai plagié un peu mon ami René Revol. C'est que nous avons aussi une ville à la campagne, comme disait Georges Bernard Shaw. Et nous avons donné d'ailleurs le qualificatif de Juvignac la Verte, parce qu'il y a énormément d'espaces verts. Nous consommons le moins d'espace possible pour laisser la nature s'épanouir. Mais nous voulons que la ville reste avec son identité, mais une identité assez spécifique, parce qu'elle est sur la 750. Et donc c'est une ville qui est pleine d'avenir. Et nous lui avons donné, une direction, la direction de ville touristique, puisque nous allons avoir les termes sur la commune.
Alors ça, on va en parler, ça, oui.
Et puis aussi une ville commerçante, parce que compte tenu de la topographie, comme disait, et comme va dire aussi Jean-François Audrin, c'est que nous avons une richesse écologique énorme sur ces communes qu'il nous faut préserver. Donc préserver la nature tout en mêlant l'homme à la nature, parce que l'homme est fait pour vivre dans la nature.
Bon, et puis alors Saint-Georges-d'Orc, Jean-François Audrin, bonjour. C'est autre chose que du vin et le vin de Jefferson, Saint-Georges-d'Orc?
Le vin est très important à Saint-Georges, vous le savez. Moi, j'ai la chance de vivre dans une commune qui est entourée d'un halo de verdure. Et je tiens beaucoup à ça. C'est un village traditionnel. On est un village qui est fait de 80 associations. On est un village dans lequel les taureaux sont présents. Donc, la fête taurine est présente. Un des rares villages de l'ouest montpelliérain où nous avons la chance d'avoir une arène. Des choses qui se passent, un village qui se vit tous les jours à travers ses associations et comme le disait Daniel Santonja, au sein de la nature, et nous sommes très heureux. Et d'ailleurs, il y a, à travers cette... On a une similitude entre ces trois villages qui sont nature et vie. Ce sont des villages qu'on a envie de voir autres que des villages dortoirs, ce sont des villages où il se passe des choses et on a donc énormément de chance en plus d'être suivi par nos administrés dans tout ce que nous pouvons entreprendre.
Alors, village bobo, village pas bobo, on aura l'occasion d'en discuter. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous et bonne divergence là pendant une heure et demie. Mais avant tout, notre belette préférée, la personne de Jean-Pierre Foubert, s'apprête à pousser un petit cri. Je vous en dis pas plus. À toi, ma belette.
La République. La Respublica, la chose publique. Être maire, c'est être élu pour gérer à l'échelle d'une commune la chose publique, c'est-à-dire le bien commun à tous les citoyens vivant sur un territoire. J'imagine que vous serez d'accord. C'est-à-dire, au fond, la gestion collective des hommes et des femmes et d'un territoire. La difficulté de la gestion d'une société est double. Elle est d'abord le fait que les décisions prises sont collectives et s'appliquent aux citoyens de manière individuelle, quelle que soit la situation de chacun. Ensuite, la délégation par le vote majoritaire se fait sans contrôle possible intermédiaire entre deux consultations, un peu comme chez les Romains où l'on pouvait désigner un dictateur pour 6 mois en lui laissant les pleins pouvoirs. Je ne dis pas que vous êtes des dictateurs, mais je vais dans mon propos expliquer effectivement les problèmes que les citoyens peuvent ressentir et notamment leur rapport à la politique au sens général. Bien sûr, notre République n'est pas une dictature, mais elle a introduit une multiplicité de niveaux de pouvoir où le citoyen mal informé se perd. Entre les maires, les adjoints, les conseillers municipaux de la majorité ou de l'opposition, les délégués des intercommunalités, les conseillers généraux ou régionaux, les députés et sénateurs, les membres du gouvernement avec son Premier ministre, le Président de la République, sans parler des structures européennes, son Parlement et ses commissions, le citoyen trouve sans doute que cela l'éloigne de ce pourquoi il a été formé. Sans doute pense-t-il que sa participation se limite à déposer un bulletin de vote, quand il veut bien y participer, lors de consultations électives et que la démocratie n'est pas un luxe, mais un parcours du combattant. La démocratie, vécue comme un domaine privé des élus pour gérer l'espace institutionnel de tous. C'est peut-être là que la démocratie est le plus en danger. Quand ceux qui sont censés en bénéficier la vivent en individualistes forcenés, comme quelque chose qui ne leur appartient plus. C'est à ce moment-là que les idées de radicalisation de la gestion de la société et des citoyens germent, d'abord comme un repoussoir, puis comme une solution. Comme quoi la démocratie peut engendrer, si l'on n'y prend pas garde, des dictatures dont tout le monde sait qu'elles n'ont jamais résolu quoi que ce soit.
Bon, bah ça c'était un cri, c'était le cri de la belette. 4 notes de musique, histoire de... avant de partir pour le numéro 4 d'Aglographie, un petit morceau, 3 morceaux dans l'émission, on en a choisi un pour chacun d'entre vous. Le premier c'est pour René Revol, c'est les Beatles, Revolution.
Donc ce n'est pas les Beatles, mais...
Evolution.
Bon, eh bien, en retour dans nos studios, Madame la maire, messieurs les maires, on va s'effacer, à vous la parole. Permettez-moi de distinguer d'abord vos différentes communes, même si elles sont toutes agglomérées. Tout d'abord, Saint-Georges-d'Orc et puis Juvignac. Vous êtes pour l'un, vous fûtes pour l'autre, UMPiste. Bon, bah, comment ça se passe dans l'agglo avec Jean-Pierre Moore? Et puis, est-ce que le tambourin rapprocherait Saint-Georges-d'Orc du président?
Du condon sec. Hein. Alors, on a beaucoup de chance au sein d'Aglo. C'est que je trouve personnellement que nous travaillons dans l'intérêt général et que nous essayons de ne pas avoir trop de discussions partisanes. Je suis, moi, pour parler de l'Aglo, des habitants de l'Aglo, et essayer à un moment, hein, dans le cadre de l'Aglo, d'essayer un peu d'oublier l'UMP, le Front de Gauche, ou le PS, après, pour d'autres élections, que ce soit les cantonales, les régionales, ou les élections nationales. Là, oui, on commence à y aller. Mais pour ce qui est de nos discussions personnelles, l'intérêt général le prime pour moi.
C'est une oasis, quoi, l'Aglo.
Pardon ?
C'est une oasis.
Exactement, c'est une oasis, mais dans laquelle on travaille bien. Et on travaille tous ensemble. Nous sommes voisins avec René Révol et Daniel Santonja, et on continue à travailler ensemble avec grand plaisir et pratiquement toujours dans le même sens, je trouve.
Moi, je pense.
Et Daniel Santonja, oui, alors.
Oui, donc je
pense. Quoique ancienne UMPiste, mais.
Oui, mais je suis restée avec mon âme politique, c'est-à-dire que je suis toujours divers droite maintenant, mais je suis une personne de droite, je suis une démocrate de droite, et je l'assume et je suis contente de l'être. Mais nous parlions de l'agglo. L'agglo, c'est quand même un espace protégé. L'avantage de travailler tous ensemble, c'est de travailler, d'ailleurs vous avez vu les rapports que nous avons les uns les autres et qui se passent aussi de la même façon à l'agglomération avec tout le monde, nous avons des rapports quasi amicaux. Nous avons une réflexion commune dans l'avantage de nos communes, l'avantage de cette agglomération. Et avec Jean-Pierre Moore, il l'a dépolitisé, comme avait fait Georges Frêche, le débat, de façon à ce que nous puissions avoir une communauté qui peut engendrer des choses intéressantes à tout point de vue, au niveau de l'urbanisme, des finances et autres, et qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Je crois que c'est la condition sine qua non pour réussir quelque chose.
Mais vraiment, vous réussissez vraiment à travailler comme il faut? Parce que comment vous vous positionnez vis-à-vis de la CFE?
Ben, écoutez, la CFE, nous avons été piégés. Et je suis persuadée que...
Vous avez été piégés, mais par qui?
Alors, peut-être par l'administration.
Par le directeur général des services?
Peut-être pas le directeur général des services. Non, je n'impute une responsabilité à personne parce que je ne connais pas exactement ce qui s'est passé au niveau de l'administration. Mais je crois que quand nous avons voté, parce que nous l'avons voté, il y a eu bien entendu les 15 millions de provisionnés, mais nous pensions que ça allait augmenter de 2 points et nous n'avons pas fait le calcul.
Donc vous êtes coupable, mais pas responsable.
Alors, je ne suis pas Georgina Dufoy, mais, mais je vais vous dire une chose. C'est que, en fait, ce que j'ai posé comme question à l'agglo après, quand nous nous sommes sentis piégés, c'est est-ce que nous avons fait des simulations? Nous, dans nos communes, quand on doit augmenter les impôts, quand on doit faire quelque chose, ou même les baisser, nous faisons des simulations, et non pas une simulation générale, mais sectorielle. Et je pense que là, la simulation sectorielle n'a pas été faite, et c'est pour ça qu'il y a eu ces gros problèmes. Mais quand même, on devait penser, et je regrette de ne pas l'avoir fait, que de passer de 1 à 7, ça changeait complètement la donne. Je plaide coupable en ce domaine.
Donc coupable, mais pas responsable.
Je n'emploierai pas cette expression, parce qu'elle a été très triste de conséquences,
l'affaire du sang contaminé.
L'affaire du sang contaminé a été très grave, tandis que là, quand on peut récupérer les choses, quand c'est une question de finance, eh bien, les choses maintenant, je pense, rentreront dans l'ordre au bénéfice des commerçants et des artisans qui en ont bien besoin.
Bon, et puis vis-à-vis de Montpellier Unlimited, c'est vraiment une bonne idée, ça, cette histoire, ou est-ce que ça valait le coup, au niveau de l'agglo, de voter X millions d'euros? Parce qu'il y a un gros débat, 2, 3, 5, on en est même à 11 millions, pour faire une espèce de Marc-Ombrelle, tandis qu'il en existe déjà une au niveau de la région, Sud de France.
Oui, non, mais moi je me suis posé cette question, je voudrais juste avant faire une petite précision. Les rapports avec les hommes, les personnes, c'est une chose, les choix politiques c'est une autre. Hein, elles n'ont pas automatiquement lien. Je connais un peu moins le maire de Saint-Georges, mais bon rapport avec lui. Daniel, je la connais très bien. J'ai sa filleule qui est sur ma liste, voilà. Et donc on a toute une série de liens. Et quand il y a un problème, quand on n'est pas d'accord, ça nous arrive sur certains dossiers de ne pas être d'accord. On s'appelle, on discute, on se dit les choses franchement.
Et nous faisons des choses ensemble.
Voilà. Et en plus, on a mis par exemple ensemble un réseau d'assistantes maternelles. Bon, c'est elle la mère de Juvignac, c'est moi le maire de Grabel. On est une commune qui est proche l'une de l'autre, qui a des intérêts communs. On travaille ensemble. Voilà. Ça me paraît très important.
Et nous allons signer aussi une convention. Pour les feux d'incendie.
Voilà, pour les feux d'incendie aussi, parce qu'on est sur le même territoire, il faut organiser tout ça. Et on voit bien que les choses sont délicates à organiser. Maintenant, au niveau de l'agglomération, je dois dire aussi, j'ai de bons rapports avec Jean-Pierre Moore, bien meilleur qu'avec son prédécesseur. C'était lié à des personnalités, des caractères, une histoire. Mais quand il y a un problème, je lui en parle et on en discute. Ceci dit, je tiens à vous faire remarquer que je ne suis pas membre du bureau, que j'ai présenté ma candidature et qu'elle a été refusée, qu'il y a donc manifestement une volonté d'harmonie à géométrie variable, alors que je suis à gauche comme Jean-Pierre Moore. Donc c'est un petit problème qui s'est quand même trouvé posé.
On va effectivement y revenir dans une ou deux minutes. Je voudrais juste entendre Jean-François Roudrin à propos de Montpellier Unlimited. C'est une bonne idée, ça ?
Je l'ai validé, je l'ai voté et je l'assume. Je crois que c'est une bonne idée, oui. Ce type de démarche a fait ses preuves dans différentes villes du monde. Et on a annoncé des chiffres, comme vous disiez, 11 millions. Bon, je crois qu'à un moment, la rumeur bat son plein. Et que si jamais, effectivement, comme Jean-Pierre Moore l'a annoncé, le budget est de 600 à 640 000 euros hein, pour la communication de Unlimited. Et rien à voir avec les 5 millions d'euros prévus. Je crois que les choses peuvent être intéressantes, d'autant plus que cette campagne s'inscrit dans le développement de la future gare et du sud de Montpellier. Et je crois qu'à un moment, il faudra qu'il y ait une campagne autour de ce développement pour que les choses fonctionnent correctement.
Est-ce qu'on peut dialoguer un petit peu là ?
Ah, mais bien sûr, mais vous êtes comme ça.
Est-ce que tu ne penses pas quand même que c'est un peu un concept un peu dépassé ? L'idée de donner une marque avec le nom d'une ville. Ce n'est pas du tout généralisé dans le monde, contrairement à ce qu'on croit. Et là où ça a eu lieu, ça n'a pas nécessairement bien marché. Moi, ça me choque quelque part que le nom d'une ville soit associé à une marque. Voilà, je trouve indépendant. Je ne te parle pas de la campagne communication, du débat sur les chiffres, qui est un autre débat. Je te parle sur le concept même. Fraîche, il a inventé Montpellier l'Arsur-Douai en 84-86. Hein, je parle sous l'autorité de Foubert. Voilà, 84-86. Et ça correspondait à une phase de croissance où Montpellier devait se faire une place dans un monde où elle était plutôt... Elle devait sortir de la bourgade de province pour devenir vraiment un lieu de développement économique central. Il a réussi et ça correspond à une phase de croissance. Aujourd'hui, en pleine crise, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Vraiment, je m'interroge.
Voilà. Je crois qu'à un moment, il faut savoir dépenser pour que les choses fonctionnent. Que lorsque Fraîche a fait ça, il y a maintenant plus de 20 ans, les choses étaient ce qu'elles étaient à l'époque. Et que maintenant, nous avons à nous positionner entre Barcelone et Lyon et devenir une mégalopole, un centre qui est attirant. Et je crois que Montpellier représentera le centre de cette mégalopole. C'est pour ça qu'associer cette marque au nom de la ville me paraissait intéressant pour se positionner dans ce taxe Barcelone-Lyon et ne pas se faire grignoter économiquement par Marseille ou Toulouse.
Bon,
c'est une façon de dire que le bébé est arrivé à maturité ?
Non, pas du tout.
Le bébé surdoué ?
Le bébé a grandi, mais il faut qu'il y ait du renouveau. Et ça veut dire que le bébé a grandi, l'a surdoué très bien. Mais je crois qu'à un moment, il faut qu'ils prennent un autre essor.
Voilà. Je remarque que nos deux maires de droite sont en plein accord avec Jean-Pierre Moore, tandis que notre première de gauche...
Non, pas vraiment. Bah pas surtout.
C'est
pas
le charme de la gauche.
Je n'ai pas dit encore ce que je pensais.
Pas surtout.
Je vais vous dire, bon, je ne vais pas reprendre les propos de mes collègues, mais effectivement, Montpellier a besoin de se positionner. Montpellier, c'est quand même la capitale régionale. Hein, c'est là où se tient le siège de la région. C'est la plus grosse ville aussi. Nous avons une région qui est petite au niveau de la superficie par rapport aux régions énormes d'Allemagne ou autres, et donc les Länder. Il faut que nous fassions un nom. Nous avons un point stratégique qui est important, c'est la Méditerranée, parce que nous sommes là. En Méditerranée, il y a Marseille. Marseille est sur le déclin au niveau du port. Il faudrait renforcer le port de Sète. Georges Fraîche a eu cette idée assez géniale avec le maire de Sète de faire le port de Montpellier, le port de Sète. Il est dommage qu'on ne reprenne pas cette idée, parce qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup de bateaux de croisière, développer le tourisme. Et je pense que, compte tenu justement, parce que nous sommes nous sommes en crise, il faut quand même essayer de lancer quelque chose. Il faut apporter, parce que c'est une des régions où il y a le plus de chômage, il faut dire la vérité. Soyons clairs, nous avons besoin d'attirer ici des entreprises, d'attirer des investisseurs. Et les investisseurs permettront de résoudre une partie du chômage, parce qu'il n'y a jamais de chômage zéro, mais au moins de le maîtriser, un peu plus que nous le faisons maintenant. Donc, pourquoi pas Montpellier Unlimited ? Pourquoi pas ? Nous verrons ce que ça donne. Quand Georges Frêche a lancé Montpellier la surdouée, tout le monde a poussé des cris d'orfraie en disant « c'est une bêtise, ça ne servira à rien, surdouée pour l'instant elle n'est pas ». Il est vrai qu'il en a fait une surdouée, c'est vrai qu'elle est arrivée, peut-être pas à maturité, parce que rien n'arrive à maturité, mais il fallait relancer un autre concept. Alors ce concept, nous allons voir s'il marche, je ne vais pas le critiquer avant d'avoir perçu quels en étaient les effets.
Ouais, moi je vois qu'on en vient un petit peu à Grabel. T'es quoi ? T'es dans la majorité au sein de l'aglo ou t'es marginalisé politiquement ? Parce que là, je comprends plus rien. Droite est avec Jean-Pierre Moore, toi, t'as pas l'air d'être pour.
On vient de nous expliquer qu'il n'y a pas de majorité d'opposition à l'aglo. On est d'accord ? Donc il n'y a pas de groupe politique. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qui problèmes qui se trouvent posés, c'est qu'il n'y a pas d'organisation politique au niveau de l'aglo. Pour justement.
Mais pourquoi n'es-tu pas vice-président ? Tu ne l'étais pas avant, tu n'es pas maintenant ?
Je me suis présenté et le président n'a pas appelé à voter pour moi.
Le prédécesseur et c'est l'actuel.
Et les deux. Les deux. Ils ont pas. Voilà, j'ai pas été élu. Et je me suis présenté, j'étais candidat pour l'être. Voilà, je pense
mais tu étais jeune là-bas dans l'aglo, il faut dire la vérité. Oui, nous sommes jeune, les anciens. Moi, donc.
Du haut de mes 65 ans, je me trouve déjà ancien. Voilà, donc.
Mais tu as été élu depuis peu.
2008, alors, oui, non, mais d'accord. Voilà. Mais pourquoi pas faire confiance aux jeunes ? Pourquoi ne pas faire confiance à une voix qui ne dit pas toujours oui, oui ? Pourquoi ne pas faire une enceinte politique dans laquelle, bon, j'ai exprimé, malheureusement, je n'ai pas vu l'affaire de la CFE. Je me le reproche et je m'estime responsable de ne pas l'avoir vu. Lorsque j'ai demandé de poser la même question...
Voilà la différence. Lui, il est responsable, mais pas coupable.
Non, mais c'est pas la différence. On est d'accord.
Il est les deux, je crois.
Voilà. Et donc, mais par contre, sur la taxe d'habitation, quand l'aglo a décidé de rajouter à la très mauvaise réforme de Sarkozy qui a fait diminuer la taxe professionnelle et pour le transférer sur les ménages la charge fiscale, eh bien, l'aglo se retrouve avec une partie taxe d'habitation. Et elle décide une augmentation de 1% qui aboutit à une augmentation sur les feuilles d'impôt qui varie entre 7 et 9% pour les gens. Quand vous connaissez d'ailleurs les taxes d'habitation sur nos communes, c'est pas trop grave parce qu'elles sont moins pires que d'autres. Mais quand vous connaissez les taxes d'habitation à Montpellier, une augmentation de 7 à 8% de taxes d'habitation à Montpellier, quand vous savez qu'à Montpellier, il y a 23% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, et quand vous savez qu'en plus, il n'y a que 4,5% des gens qui n'ont pas à payer la taxe d'habitation pour des raisons de revenus, c'est une chose inacceptable. Et à ce moment-là, je me suis prononcé contre. Voilà, contre cette hausse de la taxe d'habitation. Et à d'autres moments, quand l'aglo décide de financer le logement social, décide de financer le tram, etc., mais je vote dès demain, je suis pour. Donc le problème, si vous voulez, c'est d'avoir à l'aglo une capacité d'autonomie. Sous Georges Frêche, c'était difficile. On le pouvait, je pense que Daniel pourrait parler d'expérience, en allant dans son bureau et lui dire non, je ne suis pas d'accord et obtenir une négociation avec lui. Mais en public, c'était impossible. Sinon, vous faisiez matraquer. Enfin bon, voilà.
Excusez-moi,
vous ne pouvez pas dire non en public sans immédiatement être ciblé.
Pour faire avancer un petit peu la chose, nous, depuis le début de l'émission, on n'a pas prononcé une seule fois le mot de Georges Frêche.
Au niveau de la taxe additionnelle, je voudrais dire quand même.
Vous reviendrez dessus, excusez-moi. Mais par contre, j'ai juste une question toute simple. Est-ce qu'il ne serait pas temps, maintenant, ça fait 2 ans qu'il est mort, de brûler Georges Frêche ?
Non,
on n'a pas du tout envie Il a trop apporté. Il a trop apporté la ville de Montpellier à l'aglo. Et je ne suis pas une femme de gauche, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, Georges Frêche, j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce que c'est un homme qui a relancé Montpellier, qui a œuvré pour la région et qui a fait énormément de choses. Montpellier lui doit beaucoup. Et je pense qu'il était un homme qui était super intelligent, qui voyait les choses, l'avenir, qui avait des qualités extraordinaires à son intelligence. Et ses capacités aussi. Et donc, je crois que brûler Georges Frêche...
S'il avait été démocrate, ça aurait été parfait.
Il était républicain, on peut pas être tout à la fois.
Mais il a avancé beaucoup. Je reviendrai peut-être sur la taxe additionnelle. La taxe additionnelle, elle existait avant,
bien sûr.
Avant qu'elle soit instaurée à l'aglo, puisque la taxe additionnelle existait déjà à Béziers, hein, avant la réforme de la CFE. Donc, et certains maires s'en étaient servis, des maires de grandes villes. Donc, la CFE, il fallait fallait absolument une réforme. Ma foi qu'il y ait des amendements apportés à cette réforme qui a été faite, mais tous les artisans, les commerçants demandaient cette réforme à corps et à cri, qui était, on ne va pas rentrer dans le détail, fortement injuste. Bon, qu'elle ne soit pas parfaite, je le veux bien, qu'on crée maintenant aussi au niveau de Parlement des amendements à cette loi, il y en a besoin. Le mérite a été de lancer une loi qui soulageait les commerçants. Pas forcément, on n'était pas forcé d'ajouter une taxe additionnelle. Mais je comprends la taxe additionnelle de l'agglo, parce que l'agglo fait beaucoup de choses. Quand on met en route tout le réseau de tram, quand on fait des choses et quand on lance la ZAC d'Oz avec la nouvelle gare et autres qui vont coûter des fortunes, il faut bien trouver de l'argent, mais aussi, il faut être assez circonspect en la matière, parce que je crois qu'il faut aussi penser que les gens ne pourront plus payer à certains moments. Ce que nous faisons, nous, au niveau des maires, je le sais aussi bien à Grabel, Saint-Georges et Juvignac, nous, moi, je n'ai pas augmenté les impôts pendant 10 ans. Et je les ai augmentés de 0,25 une fois, et je les ai rebaissés à 0,25, parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire, voilà, nous avons besoin de temps. Quand on élabore un budget, bien entendu, si les adjoints vous mettent des choses que vous ne pouvez pas remettre dans le budget, vous ne le faites pas, et vous réduisez. Les impôts vont nous rapporter tant, il y a les taxes de l'État de temps, et on va s'arranger avec ça. Et non pas dire, nous avons besoin de plus pour faire cela. On va essayer de rentrer dans les possibilités que vont nous offrir les impôts, sans les augmenter.
Alors, moi, j'aurais une petite question au niveau justement de l'agglo. Est-ce que vous trouvez normal, viable, à terme, d'avoir comme président de l'agglo un maire de village, et non pas le maire de Montpellier?
Alors, je voudrais juste deux secondes revenir sur la CFE, parce que je crois qu'après, on va clore le dossier. Nous étions tous présents, les 90, pratiquement tous, à avoir voté la CFE. Je dis juste une chose, c'est que si nous avons tous voté ça, c'est que nous n'étions pas réellement au courant de ce qui allait se passer. Mmh. On est bien d'accord. On est 90. 90 à lire les délibérations. Il est évident qu'on a eu un manque d'informations qui fait qu'on est tombé dans le panneau. C'était même pas un panneau qui était tendu. Ça a été fait comme ça. On avait une délibération qui était trop légère. Et nous tous présent, on l'a fait, on l'a voté par méconnaissance.
Sauf
le maire de Pignan et son...
Pourquoi il savait, lui?
Alors, Michel Cassard, il faudrait peut-être lui demander. Hein, il faudrait lui demander, vous lui poserez la question.
Alors, en deux mots, rapidement, avant qu'on fasse une petite pause musicale, est-ce que c'est vraiment viable, à moyen terme, d'avoir comme président de l'agglo un maire de village et non pas le maire de Montpellier?
C'est pas le problème.
C'est pas le problème.
À mon avis, c'est vraiment pas le problème. Ça, c'est parce que c'est lié à une compétition de personnes, et je trouve ça aberrant. Le problème, c'est, à mon avis, la vraie discussion à mener au niveau de l'agglo, c'est est-ce qu'on va vers la métropole ou est-ce qu'on y va pas.
Bon, donc moi, il n'a pas besoin de candidater pour être maire de Montpellier, alors. Qui reste maire à Condensec et tout ira bien.
Bon, je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que ça change un peu. C'était toujours le maire de Montpellier qui était président de l'agglomération.
On n'a pas que tous les agglos, hein. c'est le maire de la ville centre.
Non, c'est faux. Dans l'immense majorité des agglos, c'est pas le maire de la ville centre.
Ah bon, d'accord.
C'est un adjoint d'ailleurs.
Ah oui, voilà. Non, mais Martine Aubry n'est pas présidente de la communauté urbaine de Lille, c'est le maire d'une commune périphérique.
C'est le cas dans l'Hérault aussi, avec la ville de Sète.
Jean-François Audrin,
je pense que l'important, c'est que le président de l'agglo connaît ses dossiers, et il peut être maire de Condensec ou de
Grabel.
Disait René. Ah, d'accord, donc le président de l'agglo, ce doit être un homme de dossier qui connaît ses dossiers. Je crois qu'actuellement, en Jean-Pierre Mau, qu'il soit maire de Condensec, de Montpellier ou d'ailleurs, c'est un homme qui connaît ses dossiers, qui fait avancer l'agglo dans le bon sens.
Voilà. Bon, il était déjà premier président d'agglo et s'occupait de l'urbanisme.
Bien sûr.
Donc il était déjà rodé.
On tous un check, ce qui est.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.